Toute langue, toute nation a une destinée. Et la France, dans ce merveilleux monde de la francophonie que j'ai voulu heureuse, c'est-à-dire qui a porté des fruits. Un homme heureux est un homme qui porte des fruits. Et c'est pourquoi dans ce passage, dans ce village que j'imagine dans notre contrée de Galilée ou de Nazareth, qu'importe le figuier que le Christ a vu sans fruit, fut maudit. Il n'a pas fait de miracle, et je me suis toujours demandé, avec mes profs de catéchisme, que ce soit mon père lui-même, car, comme je vous le dis toujours, je sors d'une soutane, et cela étonne, pourquoi n'a-t-il pas fait un miracle? Pourquoi de ce figuier mort n'a-t-il pas fait porter des figues bien mielleuses, comme en Orient on en connaît, des figues pommes magnifiques? Non, il a maudit le fruit. Il lui a même accusé de ne pas avoir le libre arbitre de porter de fruits, alors que les arbres n'ont pas de libre arbitre. C'est comme si la nature devait elle-même être dans sa finalité, arbre, fleur, rose, arbre pour le fruit, rose pour le parfum, etc. Et si la finalité n'est plus là, elle sera maudite. Si j'applique cette leçon grave que le Christ nous a montrée dans l'évangile, et dans son évangile, qui n'a pas duré longtemps, comme vous le savez, car charpentier pendant 30 ans, Peggy disait 3 ans de vie publique et 30 de privé. Je n'ai pas d'autre réponse à la décision du Christ qui lui appartient que de nous montrer qu'il a vécu son humanité vraiment jusqu'à l'âge d'homme. Car à partir de 30 ans, on peut commencer par mérure, même mourir dans nos cellules. Et ces 3 ans de public ont rempli le monde. Si je prends cette histoire et je l'applique sur une nation qui devait porter des fruits dans le monde, si je prends la France, l'évolution de sa langue, du latin vers le bas latin, vers le vieux français et du vieux français, vers le français classique et vers Villers-Cotterêts et vers la défense et l'illustration de la langue française. Et dans ma tête, je ne fais que suivre le programme de Lagarde et Michard, qui nous a tous formés, c'est-à-dire on voit l'évolution de cette langue, et peut-être le génie de ce manuel était d'avoir voulu montrer l'évolution, et non pas faire des chapitres séparés, tendancieux, idéologiques, et de dire qu'il y a une vie de la nation à travers la vie de sa langue. Et nous arrivons au XVIIe siècle, chef-d'œuvre de Louis XIV, qui, bien que guerroyant, bien que roi soleil, n'a jamais oublié ses artistes, ses écrivains, et ses meilleurs amis furent peut-être Molière, Racine, ou d'autres, l'admiration qu'il avait pour ses esprits libres, d'une liberté qu'il a voulu lui-même introduire dans son royaume par un droit qui est plus qu'humain, le droit divin. Qu'un seul homme dans une monarchie ou dans une nation décide, soit généreux, décide la guerre, cela nous débarrasse du parlementarisme, cela nous débarrasse des hésitations et des partis politiques et leurs divisions qui ne finissent pas jusqu'à nos jours de détruire leur propre nation. Et à partir de là, depuis ce classicisme extraordinaire qui nous a formés, Louis XIV, château de Versailles étant le symbole, nous ne faisons que de nourrir de ce grand siècle. Et le grand siècle nous a menés vers le 18e et le 19e. Malheureusement, le 18e fut comme infecté par le langage révolutionnaire. Et malgré la beauté du style de Jean-Jacques Rousseau, équilibre, harmonie, les idées de Jean-Jacques Rousseau furent néfastes. Le contrat social, une sorte de compilation malheureuse qu'il a faite grâce au moine Génovéfin dans ce vieux lycée Henri IV que nous pratiquions tous pour préparer ou pour se préparer à franchir la ligne et d'aller vers Ulm, et de Ulm à la Sorbonne et de la Sorbonne au Collège de France et du Collège de France au Panthéon. Laissons pas qui font les immortels, et sans être prétentieux, Jean-Jacques Rousseau a tiré, grâce au livre des moines, un livre qui a transformé la langue française, le contrat social, ce langage qui introduit des notions abstraites comme la volonté générale, que personne n'a compris. On comprenait le droit divin, parce qu'il y avait toute une théologie du Moyen-Âge, d'Augustin jusqu'à Louis XIV, mais la volonté générale, il fallait l'inventer. Et cette volonté générale a introduit dans la langue française une langue politique qui s'est transformée, on peut dire, jusqu'à fabriquer les Jean Jaurès, le socialisme. Bien que normalien, Jean Jaurès avait une langue qui devenait de plus en plus aride. À l'époque où Charles Péguy inventait une nouvelle langue, un nouveau rythme, gardait la poésie dans l'âme de ce qu'il appelait son socialisme. Et ses amis de Normal Sup, Jaurès lui-même, tous ceux qui l'entouraient, Henri Bergson, cousin de Proust, mais à qui gardait cette phrase simple, équilibrée, avec une pensée lucide, réaliste, et méfions-nous, spiritualiste, qui le fut condamné à la Sorbonne et le fit détourner de son poste naturel d'être professeur à la Sorbonne, écarté vers la rue, devenant un clochard superbe au Collège de France, abritant aussi les baronnes et les marquises que les clochards SDF, comme on disait à l'époque, qui venaient écouter sa philosophie rayonnante, lucide, et qui nous a donné le sens de l'évolution créatrice, les données immédiates de la conscience, et surtout, surtout les deux sources de la morale et de la religion, mais dans une langue classique. Lui qui était d'origine polonaise par son père et anglaise par sa mère, lui qui a introduit dans la langue française cette lucidité philosophique et qui, à mon avis, nous a lavé du rousseauisme quelque part. Mais cela n'a pas duré. Il fallait bien que la langue française passât. Pardonnez le subjonctif, j'hésitais. Mais jusqu'à nos jours, il n'y a pas de condamnation. La loi viendra, ne vous inquiétez pas, si l'euthanasie et l'avortement, un jour on défendra l'imparfait subjonctif dans la rue comme on défend la vie contre l'avortement et la vie contre l'euthanasie et la mort donnée, comme une aide en fin de vie. Mais la langue française avait besoin de cette aide, car à partir de 68, la Sorbonne verra deux tendances, et je la compare souvent à celle qui a opposé l'averroïsme et le thomisme à l'époque médiévale, l'athéisme, Dieu non créateur, pas de liberté de l'âme, pas d'immortalité pour l'âme, à ceux de 68 qui vont opposer des normaliens, qui eux étaient imprégnés de classicisme, de Louis XIV, des moralistes, contre ceux qui étaient en train d'arracher à la langue française, à la manière de Rousseau, mais avec moins de génie littéraire, des expressions traduites de l'allemand. Et là, Victor Cousin fut un génie parce que sa traduction est là, fut tellement lourde des œuvres de Hegel que le génie est du côté de Flaubert, que Flaubert s'en inquiétait et il le disait comme toujours, comme un saltimbanque, disait-il, puisqu'il considérait que c'était sa vocation ratée à Louise Collet ou à sa maîtresse. Mais que nous fait Victor Cousin? Il est en train de massacrer la langue française en traduisant Hegel. Et cela nous a donné toute une tradition de germanistes, de langue traduite qui nous a emmené la philosophie allemande traduite en langue française. Mais n'empêche, les résistants étaient là. Ceux de Louis XIV, ceux des moralistes, continuaient à se battre en secret. Ils étaient écartés, certes, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient passer par la rue d'Ulm, c'est-à-dire par Verdun, en sortir vivants. Au moment où Bergson se battait contre Kant, les moralistes à la Sorbonne continuaient à transmettre ce qu'était le génie français, même philosophique, et qui fut admiré, tenez-vous bien, là, il y a beaucoup de prêtres de gauche et de droite, on oublie ceux-là qui vont hésiter à dire, qui n'admiraient en France que ces moralistes extraordinaires qui a essayé lui-même de les imiter sans grande réussite, mais avec une fougue incroyable, et qui n'est autre que le génie flamboyant de Nietzsche. Les moralistes avaient beaucoup plus de finesse que Nietzsche. Nietzsche, à la manière allemande, il a écrit Le Gai Savoir, mais ses aphorismes faisaient trois pages. Dans les aphorismes de Nietzsche, il y a des coups de couteau, des assassinats. Dans les aphorismes de La Bruyère de Vauvenargues, il y a l'élégance de l'âme. On laisse l'ennemi vivant. Et de là va naître une littérature qui aujourd'hui souffre. La France est pleine d'abstractions, mais je dirais nous sommes à l'époque où le style meurt. Et Céline a raison, et c'est peut-être là où il a bien fait de choisir un pseudonyme, parce qu'il disait, par ce pseudonyme, ils oublieront le bon docteur généreux, et qui prenait même pas d'argent à ses patients, Monsieur Destouches. Je m'appellerai Céline, et de Céline, ils verront, il y a quelque chose qui se passe en littérature. Il a réussi sur ce point en disant que le style n'est pas seulement l'homme, mais le style est l'invention que nous attendons. Et s'il n'y a pas de style, il y a assez d'histoires qu'on raconte partout, n'importe quel gendarme. Aujourd'hui, Netflix n'embauche que des gendarmes pour écrire les scénarios. Il n'a que faire des vrais scénaristes. Et de là, Céline a montré qu'il y a absence de style. Et quand il y a absence de style, il y a absence de vision du monde. Et même si les visions du monde s'absentent, quelqu'un comme George Steiner a pu laisser une vérité incroyable. Ce rabbin viennois extraordinaire, professeur à Cambridge, furieux dans tous les colloques, ne voulant même pas aborder le thème de la famille après Auschwitz, comme il le disait, et celui qui, dans ses critiques littéraires, a affirmé « Je n'ai trouvé de style chez les écrivains français que chez les écrivains de droite. » Et il va citer Brasillach, Céline, Drieu-La Rochelle. Il énervera ceux qui le publiaient chez Gallimard, tous des enfants ratés, et je dis ratés de Gide, parce que Gide avait du talent, Gide avait du génie, Gide avait l'intelligence d'un pasteur protestant. Sur cette table que j'ai découverte moi-même, ayant habité la ville à Montmorency, la propriétaire m'a dit « il n'a jamais possédé la maison, c'est ma mère qui le recevait gratuitement, il n'a jamais payé de loyer, mais il avait une table toujours vide, puritaine, où il écrivait ses textes et son journal, que je vous conseille, qui est infiniment plus subtil que celui de Green. Et maintenant qu'on publie la dernière version, autant renoncer à la lecture de la dernière version de Green, qui lui aussi a pratiqué un style français, mais beaucoup disaient que c'était un style traduit de l'anglais, un peu, mais n'ayant pas réussi lui-même le génie de Bergson d'introduire de la profondeur. Il y avait de la subtilité, une sérénité, une conversion, je dirais, à la Mauriac, c'est-à-dire qui n'a jamais donné réellement ses fruits comme le figuier du Christ maudit. Et c'est pourquoi seul Handel peut conclure cette chronique. Vous allez vous demander quel est le sens de cette chronique, un mélange de souvenirs, de culture et surtout de polémiques. C'est parce que j'ai en face de moi quelqu'un que j'ai connu sous toutes les métamorphoses, comme prof, et c'était la littérature du XVIIe siècle, Boileau, La Bruyère surtout, ce génie après Pascal, il n'y a pas mieux que La Bruyère. Et Molière, Racine, c'était le château de Versailles ambulant, quoi. Et puis de l'autre côté, comme collègue, parce qu'il m'a fait l'honneur de l'inviter à donner des cours avec lui, et puis maintenant comme ami, et j'espère être là. Et nous sommes au temps où les profs se retrouvent pour faire des mélanges, c'est-à-dire un livre d'hommage à quelqu'un qui a eu cette versatilité, et surtout poindre sa spécialité. Je ne fais que parler de quelqu'un que vous aimez, que vous avez écouté ici comme directeur d'émission, une longue émission de 3 heures, traversée de désert avec tous les auteurs, et qui vous comblait de ses joies, et qui s'appelle Alain Lanavère. Bonjour Alain Lanavère.
Bonjour cher Antoine, merci de me recevoir une fois de plus. Je suis toujours heureux de revenir à Radio Courtoisie. J'apprécie le changement du décor. Notre radio,
tout en bleu.
Notre radio se porte bien, le décor est moderne et de bon goût, tout est confortable, on a l'impression d'une maison qui tourne. Et je m'en réjouis. Et je salue les auditeurs, alors les anciens bien sûr, mais les nouveaux, qui ne me connaissent pas et qui vont être terrorisés par les compliments dont vous m'accablez, cher Antoine.
Je ne vous ai pas des compliments, attention. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Je vous approuve pour la radio parce que j'ai reçu un mail de Pierre-Alexandre Bouclet qui nous parle des sondages faits et que la radio se porte bien. Moi, j'ai toujours été touché de cet espace pour la francophonie. Je ne fais pas de politique, sauf quand il s'agit du Liban, parce que la politique intérieure suppose des journalistes. Ce que je ne suis pas sur les faits, pour ne pas uniquement critiquer. Cette radio se porte bien et j'ai invité dernièrement quelqu'un et il m'a dit « Ah, j'ai entendu ». Je lui ai dit « Vous n'avez qu'à écouter les émissions et revenir vers moi ». Il commence par refuser, il écoute les émissions, il revient, mais dit « Non, 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 je viens parce que je n'ai entendu que d'émissions d'histoire, de littérature, on a le temps d'écouter les... » Et puis il était tellement ravi d'apprendre des choses en une semaine qui va revenir, c'est d'origine américaine de New Orleans, n'est-ce pas, nous, là, que Napoléon a vendu, et on va parler de la francophonie avec cette personne qui va dire son admiration pour ces émissions culturelles que vous assurez avec assiduité pendant combien d'années ?
Et j'ai eu le tablier, si je puis dire, pendant 10 ans.
Après Pierre Brunel.
Le professeur Pierre Brunel, auquel je succédais, et alors, avec Benoît, notre technicien, qui est un ancien de la maison aussi, nous évoquions nos souvenirs.
Anime cette émission avec nous, je crois, le
oui.
Benoît en question.
Oui, il est
qui
là.
Qui est bénédictin, même de profil comme moi, il cherche à avoir la tonsure
des
moines.
Il est là, il nous surveille et il nous aide. Mais dans ces temps héroïques, les studios de Radio Courtoisie étaient très délabrés. Et j'ai souvenir d'un de mes bons amis et confrères à la Cato, l'abbé André Wartel, qui venait toujours avec une bouteille...
Qui avait un portrait ici, oui.
Il venait avec une bouteille de vin de Cahors.
Oh. Bon, on avait le droit de boire à l'époque dans le studio.
Plutôt, ce n'était pas interdit.
Ah, Benoît me regarde et dit pas de vin, moi j'ai qu'une... Ah, vous avez eu votre verre d'eau, je vous le tends, parce que...
J'ai souvenir d'émissions de Madame Claude Giraud, décédée, hélas... journaliste pleine de talent, qui allumait cigarette sur cigarette.
Dans le studio.
Dans le studio.
Ah, Pierre-Alexandre Bouclet.
Oui.
Écoutez.
Et tout cela se passait dans...
Cette génération
dans une
de fumistes.
De bonne camaraderie. Mais la radio ne s'appelle pas Radio Courtoisie pour rien.
Et francophonie. Moi,
oui.
J'aime bien que la francophonie soit ajoutée toujours, parce que c'est ça. On est d'autant plus courtois qu'on a le génie français. Parce que cette civilisation de la France, c'est celle de la courtoisie. Vous êtes d'accord que le classicisme, c'est la courtoisie. Les génies français étaient toujours courtois. Ils n'avaient pas cette lourdeur du penseur allemand qui voulait absolument le marteau, comme disait Nietzsche, matraquer.
Avoir raison à tout prix, quoi qu'il en coûtât, les mœurs étaient à la polémique, à l'agression, à l'insulte, au pamphlet, à la polémique... ce n'est pas du tout l'esprit français, l'esprit de la courtoisie.
D'où ces formules, à mon avis, dans la pensée française, on commence toujours par dire « je pense que ». Et vous ne la trouvez pas en allemand. « Ich denke », ça n'existe pas. Vous ne la... même en anglais, c'est lourd. Il n'y a qu'en France où on commence par dire « je pense que ». Mais c'est « je pense ». Alors, qu'est-ce que vous
pensez ? On prend la responsabilité de son avis, de son opinion. Vous évoquiez le grand siècle, nos contemporains le savent peu, je pense. C'est fou ce qu'il y eut de parution, depuis le règne d'Henri IV, de manuels de civilité. On apprenait, le lectorat était évidemment les jeunes gens de l'aristocratie et de la bourgeoisie, et on leur prodiguait bons exemples, conseils, et c'était... pas seulement la simple politesse formelle, verbale, mais un véritable art de vivre. Vivre en société sans incommoder autrui, en se mettant à l'abri de possibles blessures qu'autrui risque de vous infliger. C'est au fond un art de vivre. Alors tout cela était nourri de réminiscences des grandes cours courtoises du Moyen-Âge Et puis, bien sûr, des leçons de Montaigne.
Absolument.
Il fallait frotter et limer sa cervelle à celle d'autrui.
Et curieusement, j'ai découvert à Oxford, lors d'une rencontre, où vous avez été vous-même aussi pour parler, je crois,
d'André Mauroy.
D'André Mauroy. Moi, c'était beaucoup plus douloureux. C'est la devise du cardinal Newman. Magnifique. Live and let live. Vie et laisse vivre.
Oui.
C'est-à-dire, il refusait l'inquisition.
Oui.
Voilà. Et à partir de là, la création est toujours possible. Mais je reviens avec vous, Alain, parce que dans ma Alain Lanavert, pour que ceux qui viennent, ou celles qui viennent de nous rejoindre, c'est que j'ai essayé de tracer ce que j'ai retenu moi-même de cet esprit Lagarde, Michard, l'évolution de la langue française, de la littérature française. J'ai été rapide, mais si je vous pose la question, vous qui êtes passé par les classes préparatoires, par la rue d'Ulm, et vous avez rejoint la Sorbonne grâce à des maîtres comme Michard, je crois.
Bien sûr.
N'est-ce pas ? Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé en pleine révolution ? Parce qu'en 68, vous y étiez déjà. Et je sais qu'à côté de votre enseignement, vous avez beaucoup sacrifié pour, je dis le mot, mais il ne vous ressemble pas, pour l'engagement, le militantisme. C'est-à-dire, vous avez milité pour sauver le personnel, le syndicat, à l'intérieur de cette Sorbonne où vous avez fait toute votre carrière, à côté d'un maître qui vous a appelé, qui n'est autre que Michard. Pour nous, c'est un manuel, pour vous, c'est un être humain.
Alors, pour nos auditeurs, qui ne sont pas informés de tout, Lagarde et Michard, c'était un manuel de littérature. Deux professeurs, tous les deux professeurs de Cagnes, pas professeurs de Sorbonne. Deux professeurs, qui étaient deux amis, avaient écrit, siècle après siècle, cet excellent manuel paru chez Bordas, avec un choix très judicieux de textes, peu de lacunes, il est inévitable qu'il y en ait, et une sorte d'apprentissage de la finesse dans les notices et notes qui accompagnaient ces textes. Alors j'eus le bonheur d'avoir Laurent Michard, décédé bien sûr maintenant, comme professeur de Cagnes. Et c'est lui qui m'aida beaucoup à me faufiler dans l'enseignement
au
supérieur.
Au lycée Henri IV.
Au lycée Henri IV.
Notre lycée commun.
Au lycée Henri IV.
Oui.
Et je commençais à enseigner, non pas à la Sorbonne tout de suite, mais à Clermont-Ferrand, où je passais deux années très heureuses. Tous mes collègues étaient rouges, ultra-rouges, PSU.
L'université de Clermont-Ferrand, pas les classes prépa.
L'université Blaise Pascal. Les étudiants étaient trotskistes, mais je m'entendais à merveille avec les trotskistes contre les apparatchiks, socialistes, communistes, PSU, qui gouvernaient l'université.
Ah oui, déjà avec une idéologie forte.
Oui, et ces étudiants auvergnats étaient remarquables d'assiduité, quoique trotskistes. Ils voulaient la révolution permanente, peut-être, mais ils souhaitaient réussir leurs examens. Et avec eux, j'ai très bien travaillé. J'ai commencé ma carrière de professeur.
17e siècle déjà ?
Oui, déjà.
Leur enseigner leur génie national, mais Pascal.
Je fis cours sur Pascal. Il y avait des copies à corriger. Les étudiants exigeaient double correction pour être sûr de n'être pas saqué par un professeur vindicatif. C'était un travail matériel assez accablant. Mais je fis cours sur les grands romans français du XIXe siècle, sur François Villon, avec délice, puisque je l'avais eu au programme de mon agrégation. Mmh. Quel grand poète, quel beau poète.
Ah oui, heureusement que François l'ait protégé. Hein.
Oui.
Sa maison, chers auditeurs, se trouve au pied du Sénat actuel, c'est-à-dire le souvenir de Villon n'est pas euthanasié encore, donc on sait que sa maison était à droite, à côté de celle qu'a occupée Casanova.
Oui, il devrait plaire à nos contemporains, puisque c'était un repris de justice. un voyou repris de justice.
Alors, donc, première bataille à Clermont-Ferrand, elle n'a pas abouti à vous sanctionner, parce qu'ils avaient senti en vous un amour de la tradition, du style, enseigner le 17e.
Et puis
c'est enseigner déjà à
un monde.
Et puis
sans flatter, les étudiants m'aimaient bien, puisque je travaillais et que je les aidais à travailler. Donc j'ai résisté aux pressions de mes collègues, d'une part, et puis ensuite ce fut la Sorbonne, après un court passage
au CNRS. Mais vous assistiez
CNRS.
Qui à Clermont-Ferrand ? Vous assistiez un professeur renommé qui était titulaire de la chaire, parce que vous étiez assistant.
C'était le vieux système des assistants, Et j'ai eu la chance d'avoir, comme professeur dont j'étais l'assistant, Madame Thérèse Goyer, qui était une remarquable spécialiste de Bossuet.
Ah, Goyer, G-O-Y-E-T.
Exactement.
Oui, je vois. Je l'ai consultée pour Bossuet. Elle avait pénétré pas mal l'esprit.
Oui, c'était un esprit très, très remarquable et je lui dois beaucoup. Mais quoique de gauche, beaucoup de mes collègues étaient parfaitement estimables. Enfin,
nous retrouverons Bossuet avec l'abbé Laurence, qui a pas mal secoué l'esprit de ce magnifique évêque. Non cardinal, l'abbé Laurence y viendra, je vous l'annonce, cher auditeur. Alors, avant d'aller vers la Sorbonne, voilà l'étape Clermont-Ferrand, parce que beaucoup ont dit, nous voulons connaître mieux la Navaire, qui, comme je vous le signale, est prix Radio Courtoisie. Comment on a appelé ce prix? Prix que vous avez, c'est le prix des auditeurs.
Le prix des auditeurs.
Voilà.
Alors, j'ai eu l'honneur d'être décoré.
Avec une majorité de voix féminine, j'ai entendu. Il ne va pas gauche-droite, il y a une femme.
Oui, mais j'ai souvenir qu'à ce moment-là, alors qui présidait aux destinées de Radio Courtoisie? Peut-être M. Henri de Lesquin. Il me fit valoir que j'eus beaucoup de chance quand même d'être choisi par les auditeurs, puisque j'avais commis à l'antenne un crime.
Ah.
J'avais publié, haut et fort, ma détestation des animaux domestiques.
Bon, pas des animaux, des animaux chez Brigitte Bardot, quoi, domestiqués.
Des animaux domestiques. Et alors cela, m'a dit M. de Lesquin, si c'était lui, a beaucoup déplu à quantité d'auditrices qui idolâtrent qui son chat, qui son chien, qui ses chats, qui ses chiens.
Bon, mais on va leur dire que vous êtes repenti.
Non, du tout.
Non, pas du tout. Bon, pas vous du allez tout. Perdre. Bon.
Ce n'est pas mon âge qu'on va changer ses goûts et ses dégoûts.
D'accord. Alors, après, donc, Clermont-Ferrand, vous n'étiez pas marié à l'époque encore.
Pas encore.
Ah, donc.
J'étais un turboprof, comme on disait.
Donc, c'était 7 heures de train pour Clermont.
Oui, mais c'était commode. Quand on loupait le train à la gare de Lyon, on allait en prendre un autre à la gare d'Austerlitz. On roulait toute la nuit, et puis.
Vous faisiez les trains de nuit.
Oui, et puis je faisais cours à 8 heures sans.
Pour une journée de cours.
Une ou deux.
Une ou deux, et vous dormiez là-bas pour revenir à peine.
Et je rejoignais Paris, où je donnais des cours par ailleurs dans d'autres établissements, l'Institut catholique de Paris.
On va rythmer notre. Mélange avec vous, mais qui est aussi un hommage, cher Alain. Je sais qu'il y a un mélange qui se prépare pour vous. On attend la surprise comme vous. J'y participerai, vous verrez avec quoi. On va rythmer avec un musicien que vous admirez, Handel, qui a écrit des suites mémorables et qui furent vraiment découvertes dans leur génie en France par un claveciniste anglais, Scott Ross, qui s'enferma dans le château d'Assas pour... enregistrer les suites de Handel et puis les 550 sonates de l'admirable Scarlatti. Là, on va essayer de se concentrer sur une suite qui va rythmer et nous allons écouter l'ouverture de la suite en sol mineur pour, bien sûr, interpréter au piano et non pas au clavecin par Eric Heitzig qui, influencé mais surpris par le génie de Scott, il m'a avoué, j'ai voulu faire la même chose par les nuances et le style au piano. Il a bien réussi.
Thank you.
Et voici que l'ouverture de cette suite en sol mineur est pour ceux qui sont au conservatoire, comme je l'ai été un peu, on disait BWV pour Bach, Werk, Werkstunde, et puis pour Handel, on disait HWV, et là on est au 426-427, et il a écrit ses suites 5 ans après la mort de Louis XIV. C'est comme ça qu'un père jésuite nous torturait pour les dates. Trouvé. Alors nous, 5 ans après la mort de Louis XIV, il fallait connaître Louis XIV, au lieu de balancer les chiffres à l'un directement au cerveau. Donc, on disait 1720, bravo. Celui qui disait 1723, il était dehors, parce qu'il commettrait 2 erreurs, celle de Louis XIV et celle de Handel. Et là, l'histoire de ces suites, rapidement, qu'Alain admire beaucoup, qu'il écoute en travaillant, et c'est un grand travailleur, mon Dieu, j'en sais quelque chose de son épouse. Marie-Christine me pardonne de la citer, c'est que finalement, il y a eu des versions chez les Hollandais où il allait parfois très très mal recopié, commercialisé, il n'avait même, il touchait même pas les droits. Furieux, Handel va dire « J'offrerai à l'Angleterre qui m'a accueilli » et il a écrit la préface en nom français. En disant, voilà, je vais offrir la vraie édition, et il retravaille à publier, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, de fantaisie qui n'y étaient pas, mais c'était son génie raffiné. Et voilà. Oui, Alain en avait.
Cette musique de Handel m'enchante, et en effet, j'aime à travailler en écoutant de la musique classique. Et une musique qui, non pas vous repose, mais vous équilibre. Handel en fait partie. Récemment, je travaillais sur le moraliste Vauvenargue, qui était militaire de carrière.
Absolument, marquis.
Marquis de Vauvenargue. Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargue. Voilà. Et j'ai découvert qu'il avait combattu dans les armées françaises à la bataille de Dettingen.
Absolument.
Or, Handel a composé un admirable Te Deum. Te Deum dit de Dettingen, où les Anglais fêtent Dettingen comme une victoire. Or, ce fut une victoire française.
Française, oui.
Les Anglais ont...
Il a voulu les flatter, peut-être qu'il le savait. Hein.
Et ce Te Deum est moins connu que d'autres musiques de Handel, mais il est somptueux.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que Handel est venu 2 fois, en 1717 et après 20, pour Le Havre, pour le Port du Havre, pour enterrer sa mère. Mais il faisait tout pour repartir vite, il ne voulait pas être embarqué par l'Allemagne, le Saint-Empire germanique, et puis être nommé cantor comme Bach. Et Bach l'a su, il a essayé de le joindre, de le rattraper la première fois, il arrive 2 heures après le départ du bateau. Mais Handel était prévenu que Bach voulait le voir. La deuxième fois, il revient au Havre, il prévient son fils, Carl Philipp Emanuel Bach, d'aller dire à Handel absolument qu'il faut l'inviter à Leipzig. Et il n'a pas réussi. Et Handel est reparti sans voir Bach. Ce sont 2 croisements. Et les gens disent que Bach voulait absolument, parce qu'il admirait Vivaldi, Scarlatti, il n'hésitait pas, malgré son génie immense, d'aller vers les autres génies et de les adapter, de les faire connaître. Un peu comme Liszt avec tous les... Mais on soupçonne Handel d'avoir eu peur. Eu peur de la profondeur de cet homme qui était, pour lui, il aimait les oratorios, la mondanité anglaise. Il a attendu le Messie, la fin de sa vie, pour faire une œuvre aussi profonde. Mais il avait peur de l'Allemagne et il a remercié les Anglais de l'avoir accueilli. Et on sent ça dans sa subtilité. Voilà. Mais on l'écoutera la suite tout à l'heure. Mais là, je reviens à Alain pour dire votre arrivée à la Sorbonne, parce qu'on va essayer de faire de cette émission... Votre arrivée à la Sorbonne, il y avait la même bataille qu'à Clermont-Ferrand. Avec des maîtres beaucoup plus connus et qui essayaient d'enterrer les vieux maîtres. Quoi.
Oui, alors la Sorbonne avait connu le désordre que vous savez en 68 et la faculté des lettres avait éclaté. Déjà antérieurement, on avait créé Nanterre, rivale de la vieille Sorbonne. Alors après 68... Il y eut un Paris 4, Paris 4 Sorbonne, qui fut mon université, où s'étaient repliés d'abord de grands professeurs, de grands maîtres, et qui tous répudiaient mai 68. Donc j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui étaient conservateurs, réactionnaires, exactement accommodés à ce que je suis, à ce que j'étais, tout au moins, mais je n'ai pas changé. Donc j'ai eu la chance de trouver de très grands maîtres, devenus pour certains des collègues, puis éventuellement des amis, Jacques Truchet, spécialiste de Bossuet, Garapon, spécialiste du théâtre comique du XVIIe siècle, etc., etc. La liste est très longue. Frédéric Delofre, qui a exhumé de l'oubli où il moisissait les œuvres non théâtrales de Marivaux, par exemple. Donc j'ai connu de très grands maîtres et participant aux instances élues de la Sorbonne, j'ai eu l'occasion de rencontrer de grands maîtres en anglais, en espagnol, en allemand, en philosophie, en géographie, en histoire, dans toutes les disciplines. C'est là où j'ai connu, les auditeurs connaissent ces noms, Pierre Chaunu, par exemple.
Historien protestant, mais
oui.
Très attiré par le catholicisme.
Oui, historien brillant, Tenu Truand.
Le temps des réformes, quel chef-d'œuvre.
Oui, et homme d'un grand courage. Donc pendant des années et des années, nous avons tenu tête à ce que le général de Gaulle avait appelé la chienlit. et les étudiants étaient de bonne qualité. Les 10-20 dernières années de ma Sorbonne, j'y préparais les jeunes gens à l'agrégation des lettres.
Mais la génération d'étudiants de cette époque comparée à celle de Clermont-Ferrand. À mon avis, à Paris 4, il n'y avait pas que des trotskistes, ils attiraient la bourgeoisie de parisienne,
oui, oui.
C'était
mais
l'université par excellence des familles bourgeoises. Et alors, comment réagissaient-ils, ces étudiants? Est-ce qu'ils étaient emportés par peur de ceux qui dirigeaient ces grèves?
Non, certains professeurs, dont votre serviteur, j'étais pas professeur, j'étais assistant, avaient aidé quelques étudiants à former des syndicats étudiants. Et nous avions des élus, nous avions des voix, ce qui nous a permis d'élire président de la Sorbonne, un homme dont je salue la mémoire et la science, l'helléniste Jacques Bompère. Protestant, lui aussi.
Et plus tard, il y a eu un bon fils à la Sorbonne.
Oui, Jacques Bompère.
Qui n'est pas le fils de Bompère.
Non,
attention.
Du tout. Jacques Bompère fut un président admirable. Et nous tenions tête au ministère. Et les élus étudiants de ces syndicats, disons conservateurs ou de droite, tenaient bon face à la chienlit communiste, trotskiste. Nous avons coulé des jours heureux. Et nous avons fourni à l'éducation nationale un bon nombre d'agrégés, je pense, de grande qualité.
Vous vous formiez à l'époque.
J'ai le temps de...
Bien sûr, c'est votre émission, Alain.
La semaine dernière, je faisais une signature dans une librairie qui n'était pas de gauche.
Des
acheteurs du livre dont j'avais fait la préface se succédaient. Et dans l'après-midi, j'ai vu passer 4 de mes anciens étudiants. Un garçon et 3 filles. Mais 2 de ces 3 filles étaient des grands-mères, dont l'une, une grand-mère, plutôt une vieille dame. Soit dit, si elle m'écoute, soit dit sans l'offenser, nous avons fait le calcul, je la préparais au CAPES en 1970, il y a un demi-siècle. Elle s'est souvenue de moi et moi d'elle.
Et vous étiez un prof de à peine 30 ans.
Oui.
Vous offusque pas que je parle de l'âge.
Les autres se souvenaient très bien des programmes qu'ensemble nous avions traités. Ah. Et l'autre était une jeune et tonique grand-mère, que je salue aussi. Pour un professeur, c'est très émouvant de retrouver des étudiants qui, sur le tard, vous disent qu'ils vous savent gré des cours que vous avez pu leur donner.
Ah ben, figurez-vous,
ils reconnaissent,
cher Alain,
la qualité de votre travail.
Voilà, et figurez-vous que le même jour, je savais que vous signiez Educan, je suis passé, il n'y avait pas encore personne, nous avons rejoint les anciennes de la Sorbonne et de l'Institut Saint-Pédis, en même temps fondé par Monseigneur Lefebvre, où j'ai eu la joie et l'honneur aussi de leur donner des cours à l'époque comme vous, et on a retrouvé les anciens. Et moi, j'étais étonné, je retrouve des jeunes, on a parlé de vous, et ceux qui suivaient en philo avec moi, en lettres classiques avec vous, sont... Et j'ai hâte de dire aux Français, c'est l'éducation qui sauve un peuple. Ces jeunes filles, certaines sont institutrices, profs, mais toutes mères, mais mères de 10 enfants, 8 enfants, il n'y en a pas une qui m'ait parlé de ses enfants, sauf en termes 10, 12. Et je trouvais ça admirable. Admirable qu'ils aient ce courage malgré cela. Et elles vivent, elles se sont mariées à des époux dignes d'elles. Et les fruits de cette éducation que Mgr Lefebvre a entendu par cet institut Saint-Pédis sont là pour la France. Alors si vous faites ça dans tous les lycées et collèges français, la France est sauvée.
J'ai souvenir d'un mot de Mgr Lefebvre quand s'est créé cet institut universitaire Saint-Pédis, que présida longtemps M. l'abbé Alain Laurence.
Absolument. Et c'était d'ailleurs à son honneur, cette rencontre. Elles étaient heureuses de le retrouver en forme.
C'était très coûteux d'ouvrir un institut universitaire à Paris. On pouvait hésiter. Et alors, les partisans d'une fondation disaient à Monseigneur, oui, on pourra former comme cela des futurs instituteurs, institutrices, des professeurs dont la France a besoin. Et Monseigneur avait dit, mais même s'il n'entre pas dans l'enseignement, il est très bon qu'il y ait un établissement qui donne un peu de culture à de futurs mères et pères de famille.
Bah, il a réussi. Sa prophétie s'est réalisée parce que je n'ai vu que des filles exemplaires. Et qui se rappelait de nos cours, de
et
nos
cas. Et qui, j'espère, continue à lire.
Et lire, et puis dans nos défauts, enfin, tout ce qu'on leur disait. Et ils nous disaient, eux, ils sont passés de 20 à 50. Et nous, ils nous disent, on vous retrouve les mêmes, ils n'arrivent pas. Mais ils voient absolument que le temps est passé pour eux, parce qu'ils se retrouvent à l'âge où, à peu près, même qu'ils nous dépassaient de 15 ans.
Oui, mais oui.
Et ça, ce vertige était là. Alors, cher Alain... on va écouter la suite de la suite, donc, la fameuse sol mineur, juste la deuxième plage. Vous savez, c'est construit à l'allemande, et là, nous allons écouter et revenir au contenu de l'enseignement et puis la bataille d'Alain Lanevers en littérature pour sauver la langue française.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Thank you.
Et voici, c'était la 9e suite qui suit, donc, avec sa courante. Et nous allons écouter la gigue. Après avoir écouté Alain Lanavert, nous parlons de sa vocation de professeur. Et Alain, qu'avez-vous fait pour que votre vocation se tourne, surtout vers le XVIIe siècle? Je savais que vous aviez l'intention déjà de faire une thèse doctorat sur les moralistes et sur la Bruyère. Alors comment vous avez pu sauver ce siècle? Parce qu'avec qui vous enseignez ce siècle à la Sorbonne? Vous étiez nombreux?
Oui, il y avait nombre de spécialistes, de bons spécialistes du grand siècle. J'ai dû mentionner le regretté Jean Ménard, éditeur et commentateur
Pascal, oui.
Admirable de Pascal. Philippe Sellier, disparu il y a peu, auteur d'une magnifique thèse sur Pascal et Saint-Augustin. Donc, il y avait de bons connaisseurs du XVIIe siècle, qui tenait des cours magistraux. Mais comme beaucoup d'anciens étudiants parmi nos auditeurs le savent, c'est le travail fait dans les travaux dirigés qui importe. Et le petit Lanavert s'occupait des travaux dirigés et corrigeait les dissertations avec, me semble-t-il, un grand sérieux et beaucoup de précision, ne leur passant rien. Aucune faute d'orthographe.
Que vous collectionnez dans un carnet, je crois, toutes ces fautes. Un jour, il va falloir les publier.
Je distribue aux étudiants une liste de 2-3 pages d'erreurs communément commises à éviter, si possible.
Il faut la publier, cette liste.
Je puis le dire, les auditeurs le connaissent, c'est un excellent journaliste du Figaro Magazine, M. Jean Sevilla. Jean Sevilla fut, j'en suis très honoré, de mes étudiants à la Sorbonne. Il a conservé une copie corrigée par Lanavert. Un de ses fils m'a accosté
très
un jour.
Très rouge, hein?
Oui, alors je corrigeais mes copies pour préciser mes observations. Je les tapais à la machine, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Je tapais en rouge ce qui concernait la forme et en noir ce qui concernait le fond.
Vous avez de l'encre rouge alternée.
Le ruban bicolore des vieilles machines à écrire. Et les étudiants étaient, au début étonnés. Et ensuite, je pense, me tenaient reconnaissance d'avoir pris leurs travaux à ce point au sérieux. Alors les 10 dernières années, j'ai pu, les 10-20 dernières années, j'ai été chargé des TD d'agrégation. Alors, intérêt, ce sont des étudiants chevronnés en fin de parcours qui tous sont très motivés pour réussir ce concours.
Dans beaucoup de normaliens.
Oui, dans un certain nombre de normaliens.
Parce que heureusement, chers auditeurs, vous ne savez pas que Normal Sup n'a pas pu obtenir le droit de délivrer des diplômes d'État. Il fallait dépendre de la Sorbonne. Du coup, d'où lire, j'allais dire, la colère des normaliens de se moquer de la Sorbonne, mais dont ils dépendaient administrativement, oui.
Le plus souvent, ils étaient reçus. Alors, l'intérêt de ce concours, c'est que le programme change tous les ans. Pour l'agrégation, les agrégations des lettres, vous avez un grand texte par siècle. Alors, je m'occupais du XVIIe siècle, et tous les ans, un nouveau texte à traiter. Ce qui, pour un professeur, est excellent, il n'est pas porté à se répéter. Il ne peut pas l'épuiser dans un ancien cours des choses qu'il a naguère dites et qui, peut-être, ne mériteraient pas d'être redites. Donc, j'ai eu l'occasion de traiter de 1000 livres. Et j'avoue que je poursuis cette tâche dans un établissement tout à fait hors éducation nationale, l'École professorale de Paris. Nous donnons nos cours au lycée Saint-Jean de Passy, en face de la maison de Balzac.
Avec des résultats de la rue Raynouard.
Rue Raynouard. Les résultats
sont... Où il fuyait ses créanciers par l'autre porte.
Oui, les résultats sont excellents, ils sont quasiment tous reçus et ils le méritent. Donc je continue de préparer des jeunes gens à l'agrégation. Ai-je le temps de placer une anecdote?
Oh, bien sûr.
Oui.
C'est votre temps.
Alors cette année... Pour le XVIIe siècle, l'on pouvait prévoir qu'un grand auteur fût mis au programme. Ce ne fut pas le cas. Il y a au ministère de l'Éducation nationale un lobby féministe, qui a imposé l'œuvre poétique, 300 pages quand même, l'œuvre poétique de l'obscure Madame Antoinette Desoulières, que personne ne connaît, qui fut peu appréciée des historiens de la littérature, à quelques exceptions près, Et le principal mérite de cette dame est d'abord que c'est une femme, ensuite qu'elle est d'humeur assez libertine, elle ne croit pas beaucoup à l'immortalité de l'âme, elle se défie beaucoup de la raison, elle préfère suivre l'instinct.
C'est une avéroïste.
Oui. Et il semble qu'elle eut des inclinations du côté du néo-épicurisme du XVIIe siècle. Bref, c'est merveille une femme, merveille elle pense mal. Donc on l'a mise au programme. L'ennui, c'est que l'œuvre est d'une extrême médiocrité, d'une part, et produite dans une édition désastreuse. Il y a des fautes typographiques constantes sur les vers. Sont alignés les décasyllabes et les alexandrins. On ne les distingue plus. Sont alignés les semi-alexandrins et les octosyllabes. On ne les distingue plus. Et puis, la soi-disant universitaire qui a fait l'édition est d'une ignorance crasse sur le XVIIe siècle. À peu près à chaque note, il y a une erreur. J'ai distribué à mes étudiants une dizaine de pages, le relevé des erreurs de l'édition mise au programme par le ministère de l'Éducation nationale.
Et le titre de l'ouvrage est
Poème. Ouais. Poème d'Antoinette Desoulières. S'ils veulent une femme auteur, nom d'une pipe, il y a Madame de Lafayette, il y a Madame de Sévigné, qui, elles, écrivent bien, très bien, et disent des choses captivantes. Il faut intéresser les étudiants à des auteurs peu connus. Au XVIIe siècle, la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, écrivit des mémoires qui sont captivants. Madame de Motteville, première dame d'honneur d'Anne d'Autriche, a raconté la fronde, la fuite précipitée du Louvre vers Saint-Germain, de manière captivante. Il y a beaucoup de femmes et qui écrivent très bien au XVIIe siècle. Pourquoi avoir pris la consternante Antoinette Desoulières ?
Peut-être pour baisser les niveaux volontairement.
Peut-être.
Pour s'adresser à plus de médiocres qui sont majoritaires, sans toucher à l'excellence de la langue qui devient difficile, et donc ça hausse les niveaux. Quoi.
Elle écrit un français quelconque, son grand raffinement.
Bon, ben ça, cela mérite qu'on termine la triptyque de Handel par ce que Eric Heitzig appelait les gigues ont été parfois traitées, disait-il, comme faites par-dessus la jambe, parce qu'elles partaient comme ça, mais en fait, il la joue comme un caractère, un mouvement flamboyant qui illustre la triptyque de cette suite que nous sommes en train d'écouter, suite aux suites d'Alain Lanavert dans sa carrière entre Clermont-Ferrand et la Sorbonne. Thank you. magnifique couronnement. Il a raison, Eric, qui écrivait ses textes. Il avait un talent très très fin d'aquarelliste, de dessinateur dans son île, où je l'ai visité plusieurs fois, il peignait, et puis il se mettait dans cette vieille chapelle qui appartenait à Ambroise Thomas, qui a construit sur cette île, achetée plus tard par le grand pilote Lindell, n'est-ce pas, qui est atterri là, et qui l'a vendu à son père, le grand Charles Heitzig, où ils sont toujours dans cette famille. Eric peignait, il avait vraiment beaucoup d'énergie, il nageait, bon vivant, et puis le champagne était dans le puits, je ne vous dirai pas. Et il écrivait les textes qui introduisaient ses suites. Alors, cher Alain, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous surprendre. Le 17e, on l'a abordé plusieurs fois dans nos émissions, on reviendra au moraliste. Et je reviendrai avec vous sur La Bruyère, la passion de votre vie. Je l'attends encore, ce grand livre. Il fera 1000 pages, peut-être, si on va vous aider avec une dizaine de secrétaires. Hein. Vovnark, on en parlera tranquillement, vous l'avez abordé. Ce sont un peu des touches pour vous faire revenir ici. Pardonnez-moi, chers éditeurs, de vous révéler cela. C'est que chaque fois qu'Alain fait une émission avec moi, il a le droit à un pot de confiture. Mais comme il n'aime pas trop le sucre, il l'offre à son épouse lui pardonne de mettre trop de livres dans le salon. Mais là, je vais aller à votre actualité qui est très riche, à part les cours d'agrégatif. Voilà que vous vous attaquez à ces grands écrivains, des nouvelles éditions. J'ai dans les mains notre avant-guerre et je ne peux pas résister. J'ai ouvert, presque à hasard, je trouve, un portrait très illustré aux éditions Les Sept Couleurs que vous avez préfacé. Et je tombe sur ce passage, puis après la parole est à vous. Je vois Maurras, je m'approche, et puis Brasillach parle d'une rencontre. Un jeune normalien, je le rencontrais parfois dans notre quartier, ce garçon agrégé de philosophie, marié, père de deux bébés, et qui ressemblait à Bonaparte jeune, mais très blond. Pierre Boutan. Pierre Boutan rédigeait une extraordinaire revue de la presse, d'un mouvement de vie absolument prodigieux, pleine de colère et de vigueur. Nous l'avons retrouvé dans la rue du jour, à l'heure où l'on commence à décharger les camions des Halles, avec Lucien Rebattet, toujours impétueux, et Thierry Molnier, toujours flegmatique. Nous avons attendu Maurras, il arrivera vers minuit, etc. Et voici que dans ce livre, Notre avant-guerre, qui pour moi est un chef-d'œuvre, que j'ai lu sans illustration et sans votre préface. Or là, vous vous êtes jeté dans votre... On vous a demandé d'écrire une préface, or une préface d'Alain Anavers, ça vous demande beaucoup de travail. Vous avez refait cette édition. Alors parlez-nous de cette aventure littéraire que vous avez signée à Librairie du Ken dernièrement.
Oui, je n'ai pas refait l'édition. Je me suis contenté d'une préface assez courte. Les Sept Couleurs, c'est la maison d'édition de la Société des Amis de Robert Brasillach, à laquelle je m'honore d'appartenir. Et cette réédition aux Sept Couleurs, elle vient de sortir il y a un mois, Notre avant-guerre. Ce sont ces étranges mémoires que Robert Brasillach rédigea sur le front, en 40, sur la ligne Maginot en Alsace, et qu'il fit paraître, il était toujours mobilisé sur le front quand le livre parut chez Plon à Paris. Alors cette édition a le mérite d'être très illustrée et d'être assortie d'un index et de divers renseignements sur les groupes politiques, les organes de presse des années d'avant-guerre. Le travail a été excellemment fait par M. David Gattegno.
On fera une émission sur ce roman, parce que comme il évoque ces
figures... Ce n'est pas un roman.
Tout est roman chez Brasillach. Un romancier, c'est celui qui évoque l'intériorité des êtres. Ce portrait de Boutan est un portrait intérieur aussi.
Oui.
Ce Bonaparte...
Ces mémoires produisent en effet le portrait romanesque de cet écrivain extraordinaire que fut Robert Brasillach. Alors, du côté...
Avec des passages d'un lyrisme incroyable. C'est là où il parle des reines de Luxembourg.
Oui, les reines de pierre.
Les reines de pierre de Luxembourg. Voilà, magnifique.
Ou étudiant à l'école normale. Oui, d'abord au lycée Louis le Grand, puis
et on peut dire qu'il a gardé le style classique. Lui, le grand traducteur d'Homère, il a gardé un certain classicisme dans son style.
Écoutez,
la ponctuation de sa phrase.
Son premier livre s'intitule « Présence de Virgile ».
Absolument.
C'est une biographie de Virgile. Il n'y a pas plus classique que Brasillac. Alors, cet auteur qui m'est cher, je m'en suis occupé, j'ai eu l'occasion d'en parler à ce micro, reçu par M. l'abbé Laurence. Tout jeune, il venait de réussir son concours, enfin, deuxième essai, et il est reçu dans les derniers. Il part en vacances, chez lui à Collioure, et en 3 semaines, il avait 19 ans, il a rédigé un roman de 250 pages, intitulé « Les vacances », qu'il n'a jamais fait éditer, qu'il a conservé soigneusement dans ses cartons et dans lequel il a puisé des phrases entières pour ses futures œuvres. Grâce aux soins de la famille, de sa famille, aux soins de ses neveux, les enfants de Suzanne et Maurice Bardèche, le manuscrit avait été presque intégralement conservé. Et nous avons pu faire une édition posthume, Les Vacances, édition L'essai de couleur, 2025, postface et notes d'Alain Lanavert, et la préface est de quelqu'un que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent et aiment, M. Philippe Dugues,
qui avait ici... Historien de l'art aussi.
Historien du cinéma, excellent connaisseur du cinéma. S'il m'écoute, je le salue. Donc, Brasillac, en ce moment, me retient beaucoup, et je suis heureux de servir la mémoire de cet écrivain sur lequel, pour d'absurdes raisons politiques, nos contemporains jettent et l'opprobre et
ça mérite une émission. Silence. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Mauriac est intervenu pour le sauver.
Oui.
Et De Gaulle, après tout, c'est un écrivain général, on peut le sauver pour ça. Et De Gaulle n'a pas apprécié, il y a deux versions, il a porté l'uniforme allemand, et deux, il a traité De Gaulle, non pas de vrai écrivain comme le flattait Malraux et d'autres, mais d'écrivain avec un style de messagerie militaire,
non,
c'est
non.
Ça
un style d'ordre du jour.
D'ordre du jour. Il n'a pas utilisé les messageries militaires, non.
C'était sur les ouvrages que le colonel De Gaulle publiait avant-guerre.
D'accord.
Vers une armée de métiers ou au fil de l'épée. Enfin,
alors, nous pouvons peut-être écouter un de ses poèmes. Vous en avez choisi deux, de Fresnes,
oui.
Les poèmes de Fresnes.
On va en écouter un seul.
On va les écouter, on vous écoutera parler de ce style-là.
Alors, les auditeurs vont entendre la voix admirable de Pierre Fresnay.
Oui.
Pierre Fresnay, grand comédien, excellent comédien, avait connu Brasillac avant-guerre. Brasillac était critique dramatique aussi, pas seulement romancier et chroniqueur littéraire. Et Brasillac avait apprécié, et Fresnay, et son épouse d'alors, Yvonne Printemps. Et après-guerre, Fresnay a enregistré les poèmes dits de Fresnes, que Brasillac, qui allait être condamné à mort et exécuté, rédigea à la prison de Fresnes.
On va écouter le poème 1 et 4.
Fresnes. Le parc de Sceaux à l'horizon, la route des pèlerinages, les peupliers et les maisons, nous offrent les libres images avec lesquelles nos prisons essaient de nous tenir sages. Les quatre murs de la cellule sont peuplés quand tombe le soir des feux où notre cœur se brûle, des spectres que nul ne peut voir, dont la foule pourtant circule et nous tend les mains dans le noir. Un sifflet dans les corridors, un œil qui s'ouvre à notre porte, un chariot qui repart encore, un chaudron que l'on nous apporte, semble le bruit qui monte d'un port, signaux d'un train ou d'une escorte. Je pense à ceux qui, des années, ont attendu près des barreaux, dans ces bruits de gare étouffés, l'heure où partira le bateau quand la passerelle est ôtée et qu'on tire l'ancre de l'eau. Paysage de prison. Voici nos biens qui surgissent des brumes. Voici Paris dans la nuit qui s'allume. Voici la ville où dorment nos trésors. Tout est caché derrière les barreaux. Les arbres roux sont ceux du parc de Sceaux. Ceux que l'on aime y respirent encore. Comme un signal au bout de la jetée, comme un fanal sur le phare agité, voici la tour, grande fille de fer. Elle surmonte au-dessus des nuages nos diamants, notre or et nos images. Les cargaisons englouties depuis hier. Oh, ma jeunesse, au fond de ce brouillard, reviendras-tu avant qu'il soit trop tard pour conjurer les tempêtes encore? Ce n'est qu'à toi que je crois et confie en cet automne où court sans fin la pluie mon pauvre cœur menacé par la mort.
La voix est sublime.
Sublime.
Peut-être nous pouvons enchaîner, vu que finalement c'était un peu sa Gethsémanie, cette prison. Et Mauriac raconte qu'il n'a pas réagi tragiquement quand il a appris qu'il allait être exécuté.
Il s'y attendait.
Il s'y attendait, et la clémence de Gaulle, il s'y attendait pas du tout non plus.
Non plus, puisque il est incarcéré d'abord à Noisy-le-Sec, puis l'instruction de son procès se fait, et à ce moment-là, il est transféré à Fresnes. Et il reçoit la visite du juge d'instruction, et il n'a reçu qu'une seule visite de ce juge d'instruction. Il a vite compris que son procès était bouclé d'avance. Donc ensuite, il attend la date de son procès, qui sera en janvier. Et le 6 février 34, il est fusillé après qu'une demande en grâce ait été refusée par le chef de l'État d'alors, lequel, dans ses mémoires, dit qu'il accordait en général la grâce, mais que là, le talent était une circonstance aggravante.
Ah, oui.
En effet, Pasillac avait beaucoup de talent, et il en eut jusque dans sa prison. Alors, ses poèmes datent de la fin octobre 1944. Or, je n'ai plus la date précise en tête, mais je crois que c'est le 8 ou le 9 novembre, et fusillé le premier condamné à mort de l'épuration, le journaliste Georges Suarez. Donc, si l'on se met à fusiller les journalistes collaborationnistes...
Proche d'André Suarez
ou... Suarez n'était pas proche de Brasillac.
D'accord.
Mais si l'on se met à fusiller... Bon, il était détenu avec un milicien, Claude Maubourguet, et qui était le filleul et le neveu du patron de presse Charles Lesca, qui lui est en fuite, qui terminera ses jours en Argentine. Patron de presse collaborationniste, et directeur de Je suis partout, après Brasillac. Et Claude Mourguet, qui avait eu le grand tort de s'engager dans la milice, sans qu'on ait trouvé des actes répréhensibles par lui commis, tire 14 ans de travaux forcés. Donc, lorsqu'il écrit ses poèmes, il est déjà au courant, n'est-ce pas, de la sévérité exorbitante des cours d'exception.
L'exécution de Brasillac date de février 1945.
6 février 1945.
Alors j'ai un texte ici où il va écrire, c'est peut-être son dernier poème, aux morts de février, victimes des 6 février 1934. Et voici ses derniers vers, les derniers coups de feu continuent de briller. Et je laisse Alain finir ses quatre vers.
Les derniers coups de feu continuent de briller dans le jour indistinct où sont tombés les nôtres. Sur 11 ans de retard, serais-je donc des vôtres? Je pense à vous ce soir, ô mort de février.
Alors,
c'est un poème inachevé, quelques vers, 4 lignes. Il s'inscrit comme l'imitateur, à son corps défendant bien sûr, l'imitateur des victimes du 6 février 1934. Les salves qui continuent de briller, ce sont les derniers coups de feu de la garde mobile, place de la Concorde.
Alors là, on abordera ça, j'ai promis à Hilaire de Crémier, de l'inviter pour l'œuvre de Maurras. Nous sommes dans les dernières minutes de l'émission, mais là, votre réponse personnelle, puisque vous êtes plongé dans cette époque, dans ces figures Brasillac et Maurras, lui-même, certains disent au moment où on l'a appelé, après cette manifestation, pour aller à l'Assemblée, il fallait prendre le pouvoir, il écrivait des vers. Et puis, il a hésité, et une sorte de mélancolie, il a dit, après tout, et ils nous auront de nouveau, etc. Comment vous expliquez cette... Quelle est votre lecture de cette attitude de Maurras? Michel Rouche le critiquait sur ce point. Il trouvait que c'était manque de courage. Vous, vous le comprenez comment?
Je ne suis pas assez bon connaisseur de l'œuvre de Maurras intuition. Et de ses vies. De l'autre côté, je pense à ce que dit Peggy. On reproche toujours aux théologiens de Byzance d'avoir spéculé sur le sexe des anges alors que l'islam assaillait Byzance. Mais que voulez-vous que des théologiens fissent d'autre que spéculer? Ils ne sont pas bons au combat, les théologiens. Et Peggy dit qu'il valait beaucoup mieux les laisser s'occuper du sexe des anges.
Mourir martyr en faisant de la théologie.
Exactement. Maurras, il avait une urgence poétique, si je puis dire, d'où cette distraction qui lui a en effet beaucoup, beaucoup reproché. Notre émission passe au mois de mai. Puis-je prévenir nos auditeurs?
Tout ce que vous voulez.
Mais alors, je fais ma publicité personnelle. L'éditeur Benoît Mancheron, qui est une voix chère à Radio Courtoisie, le patron de Via Romana, va, m'a-t-il prévenu, ce mois de mai ou au mois de juin, éditer un recueil de nouvelles, d'excellentes nouvelles, de Jean de la Varande, Heureux les humbles, et la préface de cette réédition, la préface, je vous assure, savante, elle m'a coûté du travail, a pour auteur Alain Lanavert. Donc je ne m'enferme pas dans Brasillac, ni dans mon XVIIe siècle.
Donc une émission se prépare. Avec ces pots de confiture, vous allez garder la santé forte. Ah non, votre aliment préféré n'est pas sucré, vous savez.
Le sel et le poivre.
Le sel, comme tous les gens de Bidache.
Oui, mais on aime bien aussi les friandises dans le midi de la France.
Ah oui, c'est... Oui. Ce gâteau extraordinaire que nous avons goûté, une sorte de...
Le russe.
Le russe. Là,
le russe, qui est un gâteau succulent d'Oloron-Sainte-Marie.
Absolument.
Oui, qui se nomme ainsi parce que les amandiers de France et d'Espagne et du Portugal, vers les années 1880, crevaient tous. Et il fallait importer des amandes du sud de la Russie, de Crimée. Bon. Donc avec des amandes russes, ce gâteau s'est appelé le russe. Il est succulent, avec une crème au beurre pralinée. J'en salive.
Bon, vous nous le faites goûter à une de vos signatures. Et puisqu'on aborde tous ces sujets mélanges de courage, de sensualité et de martyr aussi, la mort de Brasillac en est une. Personne ne saurait dire qu'elle est le style ou l'œuvre d'après Fresne s'il avait été gracié. Quel style aurait-il suivi en dehors du vrai combat? Est-ce qu'il aurait senti une médiocrité qui l'aurait peut-être poussé à des œuvres plus spécialisées de traduction plutôt que de romans?
Je pense...
On peut spéculer.
Il avait commencé par une biographie un peu imaginaire, mais très émouvante, de Virgile. Je pense que le genre de la biographie, il avait écrit sa propre biographie sous forme de pseudo-mémoire dans Notre avant-guerre. Je pense que la biographie l'aurait tenté. Et du côté du roman, il avait quand même donné pendant l'occupation Les Sept Couleurs, qui est un roman expérimental fort intéressant. Et puis, son dernier livre, il avait commencé en captif des Allemands, au début des années d'occupation. Il avait commencé un roman intitulé Les Captifs, mais il avait publié en 1944. Dans le Révolution nationale, l'hebdomadaire de Lucien Combel, il avait publié un roman intitulé 6 heures à perdre, où il renouvelle complètement sa technique. On aurait eu une histoire d'amour, pas de roman sans amour, mais racontée du point de vue de témoins qui tous sont détenus dans des camps de prisonniers, se rencontrent et apportent leur témoignage. Et peu à peu, le puzzle se serait organisé, se serait formé, et l'image centrale des amants
voilà.
eût apparu.
Une émission sur Brasillach s'annonce, sur Maurras avec Hilaire de Crémier, sur l'œuvre littéraire de Maurras, le poète où j'aurais évoqué, bien sûr, Pierre Boutan, admiré comme un jeune Bonaparte. Ça aurait fait hurler Boutan d'être comparé à Bonaparte parce qu'il l'appelait le Corse usurpateur. C'était un peu comme Maurras, considérer que la République, c'est le règne des étrangers. Bon, on ne va pas aborder les problèmes aujourd'hui avec toutes les histoires du maire de Saint-Denis, le pauvre et les autres, mais nous allons finir pour vous faire écouter cette sarabande que j'ai prise en générique et que Handel, avec son génie, va développer et que Eric Heitzig va interpréter avec ses propres variation que j'ai vu, bien sûr, créer. Et voici sur ces variations qui sont d'Eric Heitzig lui-même, sur cette magnifique sarabande, il en a fait d'autres. Nous allons nous retrouver plus tard avec Alain Lanavert et il a un mot à vous dire.
Je vous remercie, cher Antoine, d'abord de m'avoir reçu et je remercie les auditeurs de m'avoir supporté.
Ben, on se retrouvera, il y aura autant de confitures que vous voulez. Si, chers auditeurs, vous voulez envoyer un cadeau à Alain, la confiture est bien, bien appréciée. Je vous remercie, nous sommes le 5 mai, émission enregistrée, vous pouvez toujours envoyer des mails. Dieu vous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal de la francophonie heureuse, dirigé par Antoine Assaf. Émission préenregistrée le 4 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 5 mai, de 19h30 à 21h, et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.